leur chant. Bonjour, hors champ aujourd'hui avec Kishwar Desai. Kishwar Desai, vous êtes écrivain, vous êtes l'auteur de nombreux livres dont trois ont été traduits en français, Témoins de la nuit, Les origines de l'amour, La mère d'innocence. Vous avez eu une autre vie avant de devenir écrivain de polar et on essaiera de comprendre pourquoi vous avez choisi le roman noir pour décrire le présent de votre propre société indienne. Comment s'est passée votre enfance?
J'ai eu une enfance avec pas mal de déplacements. Mon père travaillait dans la police, donc on a beaucoup bougé. J'ai été assez ballottée. J'ai vécu dans de nombreux endroits. Ce qui m'a, je dirais probablement, amené à être confrontée à beaucoup de choses différentes. J'ai vécu dans différentes parties du pays, essentiellement en Inde. Et ça a été une enfance intéressante parce que justement, nous nous déplaçions beaucoup. J'étais très souvent seule. Et c'est dans cette solitude que j'ai commencé à lire, à écrire, puisqu'un enfant qui est seul, bien souvent, utilise beaucoup plus son imagination. Donc, parfois, mon père était nommé dans des endroits très reculés où je lisais. Une enfance très intéressante et très agréable.
Je crois savoir que vous êtes fille unique. Est-ce que vos parents ont pleuré quand vous êtes née?
Alors, mes parents, à moi, ils étaient ravis. Je ne sais pas pour le reste de la famille, pour les autres membres de la famille et pour le reste de la société, d'ailleurs. Puisque ma mère me dit maintenant que les gens de sa génération, eh bien, à l'époque, lorsqu'on avait une petite fille, effectivement, on pleurait. C'était l'accablement général. Et elle se souvient, par exemple, une de ses amies qui avait accouché d'une petite fille et la belle-mère était là, la belle-mère de la parturiente était là, effondrée. Et donc ma mère arrive et félicite la fameuse belle-mère en lui disant « Voilà, une petite fille adorable qui entre dans la famille. » Et elle a dit « Tu parles, elle aurait pu accoucher d'une pierre, ça aurait été pareil. Hein? » C'est qu'une fille, c'est tout. Donc, ça vaut rien. Et alors, je dois dire que moi, ce genre de propos n'avait pas cours dans ma famille, parce que mes parents voulaient une fille. Ils espéraient qu'ils auraient une fille. Donc, c'est vrai qu'à la maison, moi, je n'ai pas fait l'objet d'une discrimination de la part de mes parents, mais c'était quelque chose qui était ambiant dans la société. Donc, on se pose des questions. Pourquoi est-ce que les gens n'aiment pas les filles? Et ça, c'est des questions qu'on se pose en grandissant.
Et aujourd'hui?
And today as well. Oh, today as well.
Aujourd'hui encore, hein, ça continue. Je viens du Punjab, Haryana. Et le Punjab et l'Haryana sont deux États qui sont contigus et qui sont à côté de Delhi. Et alors là, il y a beaucoup, énormément de discrimination. Et ce n'est d'ailleurs que très, très récemment que le ratio a changé dans la représentation entre les sexes. Vous voyez, lorsque je travaillais, donc je faisais des recherches pour mon livre, et lorsque je travaillais à Haryana, à Delhi, je me souviens la première première fois que je suis sortie et j'ai vu clinique d'avortement. Et ça, c'est, ça fait 20 ans de cela. On venait découvrir qu'on pouvait utiliser donc l'échographie ou les scanners pour dire le sexe de l'enfant avant sa naissance. Eh bien, à ce moment-là, il y avait des jeunes femmes, souvent musulmanes d'ailleurs, qui étaient amenées là par la famille ou qui venaient toutes seules et qui faisaient la queue devant ces cliniques d'avortement. C'était un système qui était en place. On allait vérifier est-ce que le bébé serait un garçon ou une fille. Et puis si c'était un enfant fille, eh bien, on allait avorter. Ça posait pas de problème à l'époque. Et je me souviens avoir parlé avec des médecins à l'époque, parce que j'étais horrifiée. Je me disais, mais comment est-ce qu'on peut faire une chose pareille? On est en train de faire un avortement sur un petit fœtus qui se développe parfaitement et qui est tout à fait normal, et simplement à cause du sexe du bébé. Et le docteur me disait, et on parle d'il y a 25 ans, il disait, mais bon, est-ce que c'est si mal ce qu'on fait? Nous, on essaye d'aider cette jeune femme, parce que vous savez, après, elle va rentrer chez elle. Elle reviendra, elle aura ce bébé-fille et on va lui faire l'enfer. Elle va être maltraitée, on va même l'acheter hors de la maison, elle va manquer d'alimentation, le bébé aussi, si d'ailleurs elle n'est pas tout simplement éliminée, cette petite fille. Donc c'est peut-être mieux de faire comme ça, ça va lui éviter de la souffrance, de la discrimination. Tout ceci pour vous dire que ce qui s'est passé il y a 25 ans, c'était quand même extrême. Mais ça a certainement rayé de la carte toute une génération de filles qui n'ont pas pu naître. Maintenant, le rapport, le ratio entre les sexes s'améliore. Et vous savez que donc le président Hollande est venu ici, dans cet État, et on voit que pour la première fois, on a invité des familles avec des petites filles qui vont s'asseoir au premier rang pour assister à cet événement, la présence du président. Donc ça montre quand même que à tous les niveaux, ça commence à bouger quand même. Donc, c'est une situation difficile, notamment dans l'ordre de l'Inde. C'est surtout là qu'il y a un problème de discrimination et de préjugés.
Quel est le statut de la femme aujourd'hui en Inde dans la législation? Est-elle à égalité avec l'homme? Jouit-elle des mêmes droits?
Yeah, I mean it's supposed to be equal rights.
Sur le papier, oui, mais ça c'est la loi qui le dit, hein. Mais de facto, c'est pas comme ça que les choses se passent. À la différence de l'Occident, eh bien, en Inde, les femmes ne sont pas très militantes. Elles ne se sont pas battues pour leurs droits. Et ce n'est que lentement que les femmes se mettent à élever la voix et à prendre la parole. Autrefois, même si elles étaient attaquées, elles se taisaient. Et c'est très, très récent, cette évolution. Je pense que la jeune génération, les jeunes femmes qui grandissent là en ce moment, veulent pouvoir jouir de cette égalité et elles veulent pouvoir parler haut et fort, ce qui n'était pas le cas pour les générations précédentes, pas même la mienne d'ailleurs. Vous savez, même si nous avons à enseigner à nos filles qu'il fallait revendiquer cette égalité, la société actuelle reste encore marquée par des inégalités.
On peut dire que vous êtes devenu écrivain pour combattre pour l'égalité du statut de la femme en Inde, et que le premier livre que vous avez fait, Kishwar Desai, qui s'intitule « Témoin de la nuit », parlait justement de ce problème très important, hélas, en Inde, mais aussi, on l'a vu très récemment en Europe, à Cologne, le 31 décembre, le problème du viol.
Well, I do think the discrimination is worldwide.
Moi, je pense que la discrimination existe partout dans le monde. C'est juste que dans certains pays, l'homme est plus puissant. Voyez, par exemple, vous parliez de l'Allemagne, il y a eu des viols, et l'Allemagne, elle est dirigée par une femme, justement. Toujours est-il que, je dirais que les gens bougent de plus en plus, ils sont exposés à d'autres cultures. Donc, il y en a qui peuvent désormais accepter que la femme revendique sa liberté. Mais il y a aussi un système patriarcal à l'intérieur même de la société. Il y a ça. Et quand je dis système patriarcal, eh bien, je veux dire que parfois la femme elle-même peut être le véhicule de ce système patriarcal. Elle va accepter des systèmes qui sont discriminatoires à son égard. Parfois, on voit des choses dans la société. Voyez, on a eu, nous, par exemple, une femme premier ministre, ici, Indira Gandhi. Il n'empêche qu'il n'y a pas eu de réforme, c'est-à-dire que le système patriarcal n'a pas disparu, parce que lorsque Madame Gandhi était au pouvoir, elle gouvernait comme un homme. Dans sa manière de faire les choses, il n'y avait rien de particulièrement féminin. Elle n'a pas mis en avant les questions féministes, par exemple. Et si nous ne nous concentrons pas sur les questions féministes, eh bien, on n'avancera pas. Il ne faut pas se dire « Oh non, on ne parle pas des questions féministes, c'est casse-pied, etc. » Tant qu'on pense comme ça, la situation ne va pas évoluer. Même aux États-Unis, en Amérique, il y a beaucoup de viols dont on ne parle pas, beaucoup de discrimination. J'ai d'ailleurs noté, j'ai vu dans des statistiques que les viols qui sont rapportés à la police sont parfois plus importants ailleurs qu'en Inde. Alors nous, en Inde, on a une culture très ancienne, c'est vrai, et puis des éléments de modernisme actuellement. Donc, si vous voulez, on est un peu bouleversé. Le bouleversement culturel est peut-être plus visible qu'ailleurs, plus visible que dans des pays où on a vécu l'évolution technologique plus lentement. Alors, les gens continuent de dire les choses politiquement correctes également dans d'autres pays, en Allemagne, en France, aux États-Unis. On a la discussion de bon teint, mais il n'empêche que la discrimination existe. Il faut comprendre qu'en Inde, lorsqu'il y a par exemple une attaque sexuelle, une agression sexuelle, eh bien, il y aura à ce moment-là des poursuites. On a ici des problèmes de discrimination qui ne concernent pas simplement la discrimination s'exerce à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'une femme qui va se présenter à la police, on ne va pas forcément prendre sa déposition. Et puis, de toute façon, si elle saisit le tribunal, il faudra des années avant qu'il y ait procès. Il y a eu un événement récemment. La femme en question qui a saisi les tribunaux, on lui a dit qu'elle devait épouser celui qui l'avait violée. Et si le tribunal local vous dit voilà l'injonction, voilà ce que vous devez faire, elle n'a pas de recours. Donc il faut quand même faire très attention lorsqu'on parle de l'Inde, parce que en Inde, il y a des choses qui doivent être impérativement réformées et qui font que c'est très difficile pour une femme de lutter contre la discrimination, mais il y a quand même une différence avec la France, c'est que si en France la femme, si vous voulez, saisit les tribunaux, peut-être qu'effectivement on va l'entendre et qu'on va lui on va lui rendre justice, mais il n'empêche qu'après ça sera très difficile pour elle à vivre quand même.
Le viol est-il un crime ici dans la législation indienne?
Vous souvenez cette jeune fille qui est morte après s'être rebellée contre des hommes qui l'avaient agressée dans un bus. C'était affreux. C'était ici à Delhi. Vous imaginez une jeune fille qui était très jeune d'ailleurs. qui elle voulait travailler, si vous voulez, comme elle étudiait la médecine, elle voulait travailler dans la profession médicale. Elle venait d'un milieu très simple. Elle vient d'aller au cinéma avec son boyfriend, elle prend le bus, et voilà que le chauffeur et les autres hommes à bord décident de la violer, de s'en prendre à elle. Son petit ami a résisté, tous ces gens-là étaient manifestement pris de boisson. Ils avaient trop bu et ils s'étaient chauffés les esprits probablement. Ils s'étaient dit, on va violer quelqu'un. Ils avaient manifestement préparé leur coup. Toujours est-il qu'elle était dans le bus avec eux. Elle est attaquée, violée. Après, on lui a introduit des barres de fer. Ses intestins sont sortis. Enfin, c'est épouvantable. Ensuite, elle a été jetée hors du bus. C'était au mois de décembre, il faisait très froid. Et il a été impossible de la sauver. Ça a été abominable. Et il y a beaucoup de gens qui sont descendus dans la rue à cette occasion. Parce que ça se passait à Delhi, où règne en principe la sécurité. Et normalement, il y a des policiers en patrouille tout le temps. Et puis, en plus, ça a frappé une jeune fille prise dans la fleur de l'âge, qui était en train de construire sa vie, qui voulait juste vivre sa vie normalement. Elle n'avait rien fait de mal, vraiment. Elle aurait pu être quelqu'un d'autre. Elle était représentative de millions de jeunes garçons et filles qui veulent juste grimper les échelons, mener une vie correcte, avoir un métier, tout simplement. Donc ça a choqué beaucoup de gens, tout à fait inexplicable. Mais ce que ça a fait aussi, cette affaire, c'est que ça a vraiment ouvert le débat sur le viol. Et maintenant, on a renforcé la loi contre le viol, et donc ça aura servi à ça, au moins. Et récemment, le plus jeune violeur, qui était donc à ce moment-là sous les verrous, il a été relâché, il a été même relaxé. Ça, c'est très récent, c'était au mois de décembre. Il avait été donc libéré il y a à peu près trois ans. Et donc, on l'a laissé sortir parce qu'il n'était pas majeur. D'où un deuxième débat qui a été de dire que, à l'avenir, si un mineur viole une femme ou une jeune femme, enfin peu importe, enfin s'il commet un viol et que c'est vérifié et que c'est avéré, il doit avoir exactement la même peine qu'un adulte, parce que au moment où il a été violeur, le moment où il a eu une telle violence, il ne se comportait pas en enfant et en juvénile, ils se comportaient en adulte. Donc ça, c'est une évolution qui se fait aussi dans notre loi. Les lois sont bonnes, c'est leur mise en œuvre qui est problématique. Vous savez, lorsque la femme va faire une déposition au poste de police, quelle est l'attitude en face? Ça, c'est le problème.
Quelle est la force du féminisme indien?
You know, I think we use the term feminism
le terme féminisme de manière un petit peu excessive, c'est un peu galvaudé, enfin, quitte à déplaire à mes amies françaises, féministes françaises parfois, mais je crois que le féminisme touche 1% de la population probablement en Inde, sachant qu'on est 1,2 milliard d'habitants quand même, hein. Donc ça fait du monde. Et lorsque je dis bon féminisme, le féminisme devrait concerner tout autant les hommes et les affecter tout autant. Ça ne concerne pas que les femmes. Ça veut dire aussi que les hommes doivent accepter l'égalité des droits. Moi, mon époux, mon mari, par exemple, est féministe. Alors moi, j'aimerais bien qu'il y en ait plus. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Donc, tout ceci pour vous dire que pour 99% de la population, le féminisme ne veut rien dire, hommes et femmes confondus d'ailleurs, même si ce 1% qui reste est féministe, comment espérer un changement? On ne peut pas, si vous voulez, amorcer un changement social sur cette base. Et c'est le gouvernement, ce sont les pouvoirs publics et nos représentants politiques qui doivent intervenir. Et ça, cela passe par l'éducation. Les femmes doivent pouvoir ne serait-ce que vivre, survivre, être éduquées, avoir un emploi, avoir une indépendance financière. Et à ce moment-là, les choses pourront changer, pas avant. Dans ces circonstances-là, elles seront l'égale des hommes. Or, la perception du gouvernement de cet état de fait, elle doit être exprimée clairement. Alors que, bon, je dirais que peut-être le gouvernement actuel essaie de faire quelque chose. Monsieur Modi, il y a peu de temps, disait, notre premier ministre disait qu'il voudrait qu'il y ait des toilettes à l'école. Imaginez que, passé un certain âge, les jeunes filles ne vont plus à l'école parce qu'il n'y a pas de toilettes. Ce sont des choses aussi basiques que ça. Donc, qui dit féminisme, etc., liberté, qu'est-ce que vous voulez quand il n'y a même pas accès à des toilettes ? De quoi parle-t-on ? Là, vraiment, il faut commencer par des choses très, très rudimentaires dans notre pays. Hein.
Dans vos livres, vous avez inventé le personnage d'une enquêtrice qui est très indépendante, qui est très intelligente et qui vit toute seule, qui a adopté un enfant et qui n'est pas mariée, au grand désespoir de sa mère. Peut-on exister en Inde sans être mariée ?
Yeah, they can.
Oui,
they
on can. Peut.
It's not easy because
if
you, I think maybe in all countries it's not easy if you are not like everybody else.
Dans beaucoup de pays d'ailleurs, être différent, ça n'est pas toujours simple, puisque les gens ont cette volonté de se conformer, un conformisme qui fait qu'on va être la bonne maîtresse de maison, on reste à la maison, etc., on élève sa famille. Ça, ça reste le stéréotype, enfin l'idéal en tout cas de la femme indienne. Elle ne va jamais se mettre en conflit avec son mari, elle va pas critiquer les beaux-parents, elle a tant d'enfants, il y a, si vous voulez, ce schéma de la perfection en Inde, et donc être comme mon héroïne Simran, ça n'est pas simple, mais c'est faisable. Et ce que j'ai constaté, surtout avec la génération qui monte, ce que je constate, c'est que s'ils sont éduqués, indépendantes financièrement, elles peuvent prendre leurs décisions, les jeunes femmes.
Oh my God, how can you behave like this?
Alors après, les gens peuvent dire, ah oh là là, mais qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas te comporter comme ça. Tu vas dire, c'est ma vie, je fais ce que je veux. C'est moi que ça regarde, ce sont mes affaires. Or ça, ça aurait été impensable de dire des choses pareilles autrefois. Donc j'ai vraiment délibérément créé ce personnage parce que je voulais qu'on ait ce type de personnage dans la littérature indienne. Vous savez, on voit. On ne voit pas, si vous voulez, ce genre de personnage dans la littérature indienne, la femme libérée ou émancipée. Elle n'existe nulle part, ni dans la vraie vie, ni dans les films, ni dans la littérature. Donc, c'est important. Très important que la femme ne reste pas le stéréotype qui dise il n'y a qu'une manière de vivre qui soit acceptable. Donc je voulais que les gens réalisent, quitte à être un peu agacés, c'est-à-dire mais elle m'énerve, je voulais qu'elle les provoque un petit peu, qu'elle les stimule dans leur réflexion. Et c'est une femme qui a une certaine liberté de penser. Elle vit comme elle l'entend. Bon, elle fume, elle boit à l'occasion. Et alors, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas non plus l'incarnation du diable. Puisque c'est comme ça qu'on voit généralement les choses. Une femme qui aurait un petit ami qui fumerait et qui boirait, c'est le diable incarné. Or, moi, ce que je voulais montrer, c'est que Simran, eh ben, c'est quelqu'un de bien. Et en même temps, elle vit d'une manière qui lui convient.
Que ça soit la location des ventres des femmes les plus pauvres, que ça soit la situation des jeunes filles qui sont en proie au viol, que ça soit des crimes de jeunes femmes qui disparaissent sans qu'on ne sache jamais rien et que la justice enterre. Finalement, tous vos livres sont des dénonciations des tares de la société indienne, comment votre travail d'écrivain est-il reçu dans votre propre pays, Kweshar Desai?
Actually, the reception has been quite good.
Yeah. Il est plutôt bien reçu, je dois dire, mon livre.
People want to. The society is opening up.
La société s'ouvre et les gens ont envie de parler de ces sujets. Et mon livre, probablement, est l'occasion de parler. Et d'ailleurs, mes trois livres ont été bien accueillis, tous les trois, et ils ont suscité un débat, tous les trois. Le premier, d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de chance, puisque ce livre est sorti en 2010, et en 2011, il y a eu le recensement national, qui a montré qu'il y avait une baisse du nombre de filles, un déclin par rapport au nombre de garçons, de bébés de sexe masculin, si vous voulez, qui a donné une certaine authenticité à mon livre. Donc, on a parlé du livre à ce moment-là. Et puis, lorsque je parlais des mères porteuses, toutes les télévisions en ont parlé, parce que les gens se sont dit, mais c'est un énorme business et on n'en parle pas. Donc il y a eu beaucoup d'articles dans la presse sur la gestation pour autrui à ce moment-là, et la loi a évolué. De la même manière pour le viol, j'avais déjà écrit mon livre avant cette affreuse affaire de viol dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce qu'il y avait eu des viols en réunion qui se passaient notamment dans des régions rurales. Et comme c'était en milieu rural, personne n'en parlait, tout le monde s'en fichait. Mais moi, j'avais fait des recherches. Donc, j'avais en fait déjà écrit ce livre avant que l'affaire de l'autobus ne surgisse. Mais lorsque j'étais en train de faire la dernière relecture de ce livre, l'affaire est arrivée. Donc, j'ai dédié mon livre à cette jeune fille qui avait été violée et assassinée. Donc, pour cette raison-là, ce livre aussi a suscité une certaine attention. Et j'essaie de parler de l'Inde contemporaine et des questions liées au genre et au sexe. Dans notre pays. Je pense qu'il ne faut pas être trop timide, vous savez, dire « Ah, on ne va pas parler de la condition des femmes parce que les gens ne vont pas écouter. » Non, les gens écoutent. Ce n'était pas possible avant, bien sûr, autrefois. Je n'aurais même pas pu espérer avoir un entretien à la radio française pour parler de ce problème du genre. Mais regardez, je parle entre-temps des crimes contre la femme, contre les femmes. J'ai participé à des festivals, à des salons. J'étais invitée partout parce que les gens sont intéressés. Ils veulent comprendre pourquoi on traite les femmes comme on les traite. Et il faut arrêter. Il faut vraiment qu'elles bénéficient du même respect que les hommes. Et c'est une question qui fait débat. Donc, si je continue à écrire, si on continue à dire, allez, ça va pas, faut changer, ceci, cela, chacun à sa manière. Moi, c'est en écrivant des livres, d'autres s'exprimeront d'une autre manière, mais en tout cas, petit à petit, à la fin, la société va changer. Les filles vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on nous traite comme ça? Et c'est ce qui se passe d'ailleurs en Inde. Lorsque un garçon lui donne une gifle, aujourd'hui, la fille, elle répond. Elle va lui donner une gifle aussi. Voilà, c'est ça notre changement.
Ben merci beaucoup pour ce que vous écrivez, pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites, Kishwar Desai. Je rappelle que trois de vos livres sont traduits en français et qu'on y prend beaucoup de plaisir. Donc, trois romans policiers, Témoins de la nuit, Les origines de l'amour, La mère d'innocence, tous traduits aux éditions de l'Aube. Merci à notre traductrice Hélène Joguet, merci à Élodie Royer, Corinne Amar, Samuel Bernard, Didier Lagarde et Anne Kobilac, ainsi qu'à Stéphane Touvenin et Pascal Bénard. Vous écoutez France Culture, bon après-midi.